Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour une table ronde qui s'intitule « L'ASF est-elle toujours la littérature de la modernité ?» Pour ceux que ça intéresse de suivre le débat et qui ne sont pas bilingues en anglais, des casques de traduction sont disponibles sur les côtés. Puisque nous avons un invité anglophone, Dar Gregory, qui est juste situé à mon opposé. Nous avons Jean-Marc Ligny, lui aussi auteur, Pierre Bordage et Catherine Dufour. Je vous laisse peut-être aller chercher vos boîtiers par vous-même. Et donc, nous allons discuter de science-fiction et de modernité. Mais ma première question va être assez directe. C'est quoi pour vous la modernité dans la littérature et dans la science-fiction ? Oh gaga, oui, on commence. Your train. Very good. Je ne sais pas, Jean-Marc, est-ce que tu...
Donc, c'était quoi la question ?
C'est quoi pour toi la modernité dans la littérature, mais aussi dans la science-fiction ?
Vaste question. D'abord, je m'excuse d'avoir un peu la voix cassée, mais j'ai chopé la crève. Non, je n'ai pas trop chanté Bruel. Non. Je dirais, a priori, pour moi, la modernité, c'est déjà, avant tout, de parler du monde actuel et d'être en phase avec ce monde. Donc, je considère que oui, la science-fiction est globalement une littérature moderne, en tout cas du monde moderne. Après, tout dépend comment on la traite, quel sujet on aborde et de quelle façon. On peut écrire de la science-fiction d'une façon extrêmement classique. Faire des aventures qui se passent même dans le présent ou dans l'avenir, mais à la façon des maîtres du passé, je dirais. On peut faire des expérimentations, ça a été longuement abordé dans les années 60-70, où la science-fiction a servi de terreau un peu à toutes sortes d'expérimentations littéraires, du type nouveau roman, etc. Elle s'en est emparée, c'était pas vraiment son propos, mais je dirais qu'elle se devait peut-être de le faire. Et puis on peut écrire d'une façon très moderne des histoires qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. Je pense que la modernité, de toute façon, a priori pour moi, c'est être dans l'harmonie de l'époque. Voilà, avant tout, d'être dans l'harmonie de l'époque, de comprendre le monde dans lequel on vit, après qu'on se serve de cette compréhension pour imaginer comment il sera dans l'avenir ou le décrire tel qu'il est au présent. Ça n'entre pas dans le cadre de la modernité, je pense. Ça entre dans le cadre de ce qu'on a envie de faire, de la façon dont on a envie de parler du monde, quoi. Je ne sais pas si tout le monde entend bien ce que je dis, parce que il manque quelques...
Pour toi, Daryl, la modernité dans la littérature, c'est quoi ?
Well, I think science fiction has... if I understand the question, is science fiction still a literature of modernity, yeah, or has it become something postmodern?
Postmodern, yeah.
Yeah, I think, as somebody told me when I first published my first novel, they said, don't describe it as postmodern because postmodern does not sell. The readers will rebel. By the way, I'm usually a hilarious person. So what I will do is, instead of making jokes, I will just say the word joke, and the translator will provide something hilarious to say, and you will all laugh. Okay. Okay, about the question. I think science fiction is still, if we think about modernism in the literary sense, I think science fiction is still a literature of modernity, because it still has the same concerns of modernity, which is criticizing the world, using logic, trying to approach the world in a critical way, and question received traditions, which is the first job of modernism. There is a strain of postmodernism that's come into science fiction, where the story seems to know that you've read a lot of science fiction stories, that you know the tropes of science fiction, and sort of winks at the, I don't know if you have that expression in French, where you're winking at the reader, saying, "I know you understand. We're talking about the genre of science fiction." There is some of that, but mostly I think science fiction is still firmly within the grounds of modernism.
Pierre, pour toi, c'est quoi la modernité de fait dans ton écriture, dans...
J'ai beaucoup de mal avec... Vous m'entendez là ? Tout est tombé. Bon, d'accord. J'ai beaucoup de mal avec le terme modernité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux machin qui essaie d'écrire des trucs avec des mots chargés d'histoire. Et donc, déjà, ça limite énormément la modernité parce que je ne peux pas inventer un langage. Hein. Le langage, si j'invente un langage, personne ne le comprendra. Ce n'est pas trop mon intérêt. J'ai aussi l'impression d'être inscrit dans des schémas narratifs très anciens. Voilà, des socles narratifs qui datent des mythologies. Et j'emprunte beaucoup mythologie pour écrire, donc vraiment pas la modernité. Ensuite, je peux avoir envie d'aller dans le futur ou dans l'espace. C'est pas ce qui fera de moi un littérateur moderne. Je vais prendre l'exemple de Catherine. D'ailleurs, à quel point on est rétrograde, c'est qu'on est macho, on laisse parler les femmes en dernier ici. Catherine a une écriture, je trouve, très moderne. La mienne est très classique. Probablement parce que j'ai fait trop de latin et que ça marque les esprits. Donc j'utilise vraiment des modes de narration extrêmement classiques. Et j'ai l'impression que si je m'éloigne de ce classicisme-là, mais ça c'est mon impression, j'ai l'impression que je vais aussi éloigner le lecteur parce que du coup, je vais rajouter du bizarre au bizarre et je vais faire du cobayen comme nos amis de Magma. Et le cobayen, personne ne comprend sauf les mecs de Magma. Donc, et encore, je suis même pas sûr qu'ils le comprennent. Donc voilà, c'est pas mon intérêt. Après, la science-fiction, ça permet d'aller effectivement... Il y a une association de trois atouts, à mon avis, qui sont importantes et qui sont peut-être là de l'ordre de la modernité. Je ne sais pas si on le trouve ailleurs dans d'autres genres. L'atout, c'est d'abord de proposer un merveilleux voyage, qu'il soit passé, futur, dans l'espace ou sur Terre, à plus ou moins long terme. Ensuite... Cette projection dans l'espace-temps crée un effet loop qui permet de mieux discerner les mouvements de fond qui traversent notre présent et donc d'apporter une réflexion au présent qui en manque parfois cruellement parce que poussé par des impératifs économiques, souvent on ne prend plus le temps de la réflexion. Prenez l'exemple des OGM, on veut nous les imposer à tout prix et personne n'a eu le temps de la réflexion là-dessus. Bon, voilà, la science-fiction s'installe là dans son besoin de réflexion. Et troisième atout, c'est la reprise des interrogations philosophiques qui traversent l'humanité depuis la fin des temps. Alors j'emploie souvent le même exemple, tant pis pour ceux qui auraient déjà, désolé pour ceux qui auraient déjà entendu l'argument. C'est le mythe de Gilgamesh, par exemple, qui est un des premiers mythes sumériens, qui parle de l'immortalité, et la science-fiction reprend à son compte les interrogations sur l'immortalité. Donc là se trouve peut-être la modernité, et encore, j'en suis pas trop sûr. En tout cas, ça fait un genre qui est très riche, avec ses combinaisons de trois atouts, qui fait qu'au moins c'est un genre qui à la fois dépayse, permet de réfléchir et poursuit l'interrogation déjà entamée par les anciens.
Catherine.
Alors pour moi, la science-fiction est forcément à la pointe de la modernité parce que sinon elle ne s'appelle pas science-fiction, elle a une autre étiquette, il y a plein d'étiquettes littéraires qui existent, si on veut vraiment en mettre une. Parce que la science-fiction a un rôle critique, elle va dans les laboratoires actuels. Elle en sort les recherches actuelles et, comme une lanterne magique, elle les projette sur le champ social à 10 ans, 20 ans ou 50 ans ou 100 ans. Et elle essaye de voir ce que ça va provoquer comme changement. C'est donc littéralement un outil critique de la part des auteurs à destination du public interrogeant le travail des scientifiques. Et ça permet aussi aux gens comme vous et moi, en tant que lecteurs, de se familiariser avec des notions qu'on ignorait avant, comme, je ne sais pas, le meilleur des mondes en son temps, a permis aux gens de commencer à songer à ce qu'allait devenir le génie génétique, les manipulations génétiques. Donc pour moi, la science-fiction n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle est là, la pointe de la modernité. Là, je vous parle du contenu, pas tellement du contenant, du style, qui lui peut effectivement être extrêmement variable selon l'auteur et selon aussi le but qui se propose. Moi, j'ai écrit deux romans de science-fiction. Il y en a un, c'est une vieille dame qui raconte sa folle jeunesse en 2400. Et donc, c'est écrit, on va dire, un « à la manière de », je ne m'identifie pas, je n'oserais pas, mais c'est un « à la manière de » Marguerite Yourcenar. Il y a pas mal d'imparfaits du subjonctif. Alors que le suivant décrit exactement dans le même univers un groupe de jeunes drogués. Et encore, la drogue n'est que la moindre de leurs débauches. Ils ont surtout tendance à changer d'organes, notamment d'organes sexuels, toutes les trois heures. Et à ce moment-là, il faut dire, le style, comme on dit, était nettement plus relâché. Et on va dire que moi, je tâche d'adapter mon style à mon propos. Voilà. Mais quant à définir exactement ce qu'est la littérature de science-fiction, alors là, si on commence, on s'embarque dans un débat qui dure depuis 100 ans et qui a déjà causé pas mal de morts.
Mais si la littérature est toujours moderniste dans son appareil, dans sa manière de critiquer, de faire loupe sur la société, est-ce que la science-fiction n'a pas évolué au niveau des thèmes et de la manière de l'amener dans le récit ? Puisque la science-fiction devient de plus en plus populaire, de plus en plus présente, que ce soit à la télévision ou dans d'autres médias comme le cinéma, est-ce que écrire de la science-fiction a changé par rapport à il y a 10, 20 ans, par rapport à la critique ou à la manière de l'amener ? Si tu veux.
Dans ta question, elle fait 10 lignes. Est-ce qu'écrire de la science-fiction, la manière d'écrire a changé ou...
Oui. Est-ce qu'il y a eu un changement de paradigme, du coup, puisqu'on est quand même sur des clés de la science-fiction qui sont de plus en plus connues ?
Moi, je dirais que, effectivement, la façon d'écrire de la science-fiction, d'imaginer l'avenir ou des avenirs possibles, même d'envisager ce genre littéraire, change tout le temps avec le monde, en fait. Ça change tout le temps parce que c'est une littérature vivante et en expansion perpétuelle. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, la science-fiction, c'est par essence la littérature de notre monde industriel et technologique actuel. Si ce monde a engendré une forme d'art spécifique, à part le cinéma ou la 3D, le cinéma, on peut en parler, mais en littérature, ce monde a engendré la science-fiction qui, malgré quelques précédents célèbres, dont Gilgamesh, que Pierre vient de nous citer, qu'on considère toujours comme étant le premier roman de science-fiction de tous les temps, mais c'est en fait le premier roman de tous les temps, tout court. Donc, il contenait tous les genres littéraires en lui-même, quoi, quelque part. Mais la science-fiction est née avec l'ère industrielle, en fait. Les premiers romans de science-fiction dignes de ce nom, qui ont tous les critères du roman de science-fiction, c'est-à-dire l'analyse du monde, la prospective technologique, l'exploitation d'une découverte, ses conséquences techniques et sociales possibles, etc. La réflexion sur l'avenir de cette découverte. C'était Frankenstein de Mary Shelley, 1818, on venait de découvrir à peu près l'électricité, quoi. Enfin bon, quelques années auparavant, mais disons que ça arrivait à la connaissance du public. Et avec l'électricité, avec la machine à vapeur, avec les premiers avions, avec les premières voitures, sont apparues les premières histoires de science-fiction. Donc, le monde évoluant à toute vitesse depuis ce temps-là, la société industrielle étant une société en expansion permanente, la science-fiction est également en expansion permanente. Et à tel point que elle s'introduit dans toutes les formes d'art à peu près. C'est pas seulement une littérature, c'est une culture. Donc c'est la culture du monde moderne par excellence, à mon avis, quoi.
I like what you said about science fiction being, you know, a living literature that constantly is changing. One thing I've noticed is that the longer science fiction goes on, the less you have to say about certain things. There's a compression of things you can now leave out because modern audiences do not have to have it explained to them. And sometimes you get literature, you get stories that are very compressed. Think of the short stories, if you've read the short stories of Charles Stross, those are almost impossible to read for someone 30 years ago. They're very compressed. They leave so much out about the current state of the world. They don't explain the internet. They don't explain virtual reality. They just presume that you know this information going forward. And so in that way, the science fiction writer can leave more and more out and concentrate on the particular problem that they want to deal with at that moment. They don't have to explain the entire future at all.
Pierre, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que je suis censé en penser quelque chose? Mais je déteste de plus en plus le mot science-fiction. Voilà ce que je pense, parce que ça nous limite terriblement et ça nous entraîne dans des débats stériles, je pense. Je préfère nettement le mot imaginaire parce que c'est ce que je vis moi en tant qu'auteur. Je suis un auteur d'imaginaire qui peut aussi bien aller dans la fantasy que dans la science-fiction, qui peut aller dans l'uchronie aussi bien que dans le space opéra, qui peut aller dans l'anticipation. Les cons savent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, donc voilà, moi j'ose un peu tout. Et je n'ai pas de définition, en fait je n'ai que des expériences. Les définitions c'est pour les exégètes ou pour les gens qui se penchent sur le fait des mouvements, qui regardent les mouvements dans le temps et qui disent ben voilà, ça c'est tel genre, ça se passe de telle façon. Et moi je suis dans l'expérience, donc je n'ai pas du tout le recul analytique pour savoir si la science-fiction est un genre moderne ou pas, ou si c'est important ou pas, si ça accompagne l'évolution industrielle ou pas. Si c'est un outil critique ou pas, il me semble qu'il y a eu des outils critiques déjà dans l'Antiquité, hein, des gens comme Apulée dans la littérature latine, des gens comme Platon, Aristote, enfin il y a eu déjà des outils critiques pour essayer de faire avancer les choses. Le cinéma, alors il y a un truc, il y a un hiatus que je ne m'explique pas du tout, c'est la différence de succès entre le cinéma et la littérature de science-fiction. Le cinéma, parce qu'apparemment il ratisse très large et que il est apparemment fondé sur des schémas aussi narratifs éternels. Et la littérature semble un peu plus compliquée à aborder. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, je ne lis jamais ça, je n'engage jamais de science-fiction », alors qu'ils vont voir des films de science-fiction sans le savoir, ou qu'ils ont parfois lu aussi des livres de science-fiction sans le savoir, mais par principe, ils ne vont pas y aller parce que la réflexion peut... Enfin, la science-fiction peut-être invite à la réflexion profonde. Enfin... Je pense qu'elle est bonne quand elle remet en cause les conditionnements, quand elle déplace le point de vue. C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant qu'auteur, c'est déplacer le point de vue, dire ami auteur, ami lecteur, peut-être que si tu lis ce livre, tu vas légèrement décaler ton point de vue, tu vas voir les choses sous un angle différent, et peut-être que ça te fera avancer dans ta réflexion sur le monde. Je pense qu'on est dans un univers extraordinairement conditionné de plein de façons. Et moi, j'ajoute la touche de spiritualité dans tout ça. Alors là, ça fâche en général. La moitié des gens quittent la salle, outrés, parce que je pense que c'est indissociable de l'humanité et que il manque cet aspect peut-être à notre époque qui est extrêmement matérialiste, c'est-à-dire c'est la pensée matérialiste qui domine, et j'essaie de voir à quel point la pensée matérialiste nous conduit au désastre permanent, parce qu'elle nous conduit dans la matière en quelque sorte, et j'essaie de voir comment on peut s'en extraire en sortant de tous ces conditionnements-là matérialistes et en essayant de développer une véritable spiritualité qui soit exactement, qui est exactement à l'opposé des religions, qui n'est qu'un conditionnement matérialiste de plus. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le genre. Donc, vous voyez, on est assez loin de la modernité ou pas, parce que ces questionnements-là, ils sont posés par le Bouddha, par le Christ, par Lao Tzu, par plein de gens qui ont traversé les âges et qui ont toujours essayé d'amener des visions neuves. Et nous, j'ai l'impression que nous sommes tellement prisonniers de conditionnements que nous avons du mal à emmener des idées neuves, y compris dans cette littérature dite de modernité qu'on appelle la science-fiction, quoi. Donc voilà, c'est l'essence de mon travail. Et c'est tout ce que j'ai à dire, et je n'y reviendrai pas.
Donc c'est à mon tour. Pour ce qui est de la littérature de science-fiction, il faut savoir que... alors non seulement il y a science-fiction absolument partout, tous les blockbusters sont des films de science-fiction et essentiellement apocalyptiques, c'est-à-dire que les villes entières sont détruites, les planètes entières sont détruites, avec une profusion d'effets spéciaux qui montrent quelle jouissance le cinéaste a eu à faire ce film et les gens à regarder la destruction de leur propre habitat. Je pense que c'est cathartique, il y a quelque chose derrière. Même le dernier Superman que j'ai vu, la Man of Steel, il y a ça aussi dans les Spider-Man. Dès que le super-héros se bat avec le super méchant, ils détruisent 3 buildings par plan séquence. Il y a véritablement une jouissance de la destruction du monde quotidien. Mais même dans littérature, il y a toutes sortes de livres qui sont de la SF pur jus, pur sucre, et qui ne disent pas leur nom. Et c'est Houellebecq qui disait, moi, tous mes livres, c'est de la science-fiction. Enfin, et plus ça va, plus il n'y a que de la science-fiction dedans. Mais je ne le dirai jamais, parce que je pense à tous les auteurs de science-fiction qui écrivent tellement mieux que moi et qui resteront toujours totalement pauvres et obscurs, tout simplement parce qu'ils se sont laissés apposer cette étiquette. Bon, alors c'est une réflexion marketing dans le mauvais goût amer qu'adore Houellebecq, mais j'ai trouvé que ouais, derrière il y avait un peu de réflexion sur le genre. Il faut savoir aussi qu'on étiquette science-fiction, au moins littérature de genre, des choses qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Moi, on m'a présenté comme livre de science-fiction à la Horde du Contrevent de Damasio. Et alors vraiment, il faut se tirer les cheveux jusqu'aux pieds pour trouver que peut-être on pourrait parler d'anticipation. C'est tout simplement un grand livre. Mais là, pour revenir à ce que dit Pierre, c'est que effectivement, quand vous prenez tous à Zanzibar, c'est de Brunner et ça date de quoi, il y a 40 ans. Le rêve absolu des gens dans ce livre, hein, c'est de gagner le ticket pour après sa mort ou juste avant sa mort être congelé. Voilà, une forme d'immortalité. Alors qu'à l'heure actuelle, qui a envie d'accéder à l'immortalité dans son frigo ? On rêve tous plutôt maintenant d'être uploadés dans un corps bio-amélioré, indestructible, parfait, etc. Donc les modalités ont totalement changé. Par contre, ce qui reste derrière, c'est effectivement un propos éternel qui est la quête, le désir et les dangers de l'immortalité.
Du point de vue, on parlait tout à l'heure de vous, Pierre nous parlait des trois points importants du voyage que doit procurer au lecteur, mais comment on fait quand on écrit un ouvrage pour balancer entre la critique qui est nécessaire pour le lecteur et le dépaysement total, le sense of wonder qui régit la science-fiction quasiment depuis qu'elle a été créée? Comment ça se passe pour vous? Qui veut commencer? Catherine, pardon. Pierre.
Eh bien, je vais paraphraser Asimov, on approche les doigts du clavier et on tape. c'est un. Enfin, j'ai envie de dire que c'est quelque part spontané. Enfin, quand j'ai découvert la science-fiction, j'avais 18 ans, j'étais à l'université de Nantes, j'étais en première année de fac et c'était un cours de littérature comparée. Et quand j'ai lu mon premier livre de SF qui s'appelle Chronique martienne de Ray Bradbury, j'ai eu le coup de cœur. Quoi. Je me dis, waouh, on est capable de faire des trucs pareils, quoi. Des récits qui vous emportent immédiatement loin, dans l'espace, dans le temps. qui vous dépaysent complètement, qui vous ramènent à la réflexion, qui amènent cette réflexion philosophique, d'interrogation philosophique. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Si je me mets à écrire, ce que j'ai fait plus tard, je me suis naturellement coulé dans ce modèle-là de la science-fiction, et sans essayer de démêler le sense of wonder, de la réflexion. Je me suis toujours astreint à une obligation qui est celle du premier degré, qui est celle de raconter une histoire. Donc je suis plus un conteur qu'un littérateur dans ce sens-là. Et donc le fait après de passer des réflexions et des interrogations venait ensuite, mais c'était inclus dans l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est un écheveau assez difficile à démêler parce qu'on ne sait pas très bien la part de quoi. Enfin, moi j'écris beaucoup de façon immersive, c'est-à-dire spontanée, et ben, je me laisse aller dans l'écriture, et c'est l'écriture qui me guide pour savoir quel est son rythme. Je pars souvent avec des personnages ou bien un univers à explorer, et ce sont les personnages qui m'entraînent vers leur univers, ou l'univers qui me guide vers ces personnages, et tout l'aspect critique vient après, quoi. Voilà. C'est vraiment difficile de savoir, je ne sais pas si mes confrères y arrivent, à faire la part des choses, c'est-à-dire de quand vous mettez un petit peu de réflexion dans le merveilleux, ou un petit peu de merveilleux dans la réflexion, ou d'interrogation avec une pincée de style.
Ça se planifie pas, à mon avis.
Ouais, c'est ça.
Le sens de fondeur, le sens du merveilleux, la magie de telle scène ou tel personnage, ça se prévoit pas à l'avance. Bon, ce qui peut se prévoir, c'est l'histoire à la base, les personnages principaux. Je sais que c'est pas ce que tu fais, Pierre. Toi, t'as une... Enfin, si je comprends bien, tu as une vague idée, puis tu te lances et l'idée t'emporte. Moi, je fais des plans rigoureux dont je commence à diverger à peu près au troisième chapitre pour aboutir à des fins, des fois, que je n'avais pas prévues. Mais n'empêche que d'avoir un plan rigoureux, c'est un peu l'échelle qui me permet de m'élancer dans le vide après. Une fois, c'est fort. Quoi. Ceci dit, moi, à l'inverse de toi, Pierre, moi, je revendique le fait d'écrire de la science-fiction. C'est vrai que j'ai écrit aussi un peu de fantastique, de policier, très peu de fantasy, mais principalement de la science-fiction. Et j'ai envie que ce soit écrit science-fiction sur mes bouquins. Même si ça va me rendre moins célèbre que Michel Houellebecq ou Bernard Werber.
Mais je ne suis pas honteux de faire de la science-fiction. C'est juste le terme que je trouve limitatif. Mais sinon, voilà, je suis dans des collections de science-fiction, donc je n'ai pas honte. Hein.
Bah, il est limitatif. Oui et non. Enfin, effectivement, il y a un énorme public qui va avoir des films de science-fiction qui sont clairement catalogués science-fiction quand même. Je vois pas où il y a une limitation. Bon, le fait qu'ils lisent beaucoup moins de romans, c'est peut-être dû à une crise de la littérature en général, plutôt qu'à une crise de la science-fiction en particulier, ça reste à étudier. Mais moi, je reste toujours persuadé que la science-fiction, c'est la littérature de notre époque, comme peut-être... je sais pas moi, le roman de KPDP a été une littérature d'une certaine époque, ou le roman policier est aussi une littérature de notre époque, mais qui va la voir peut-être par le petit bout de la lorgnette et pas par l'immense focale du télescope, si je peux dire quoi. Pour moi, d'écrire dans la science-fiction permet de comprendre le monde en le décrivant. Et en décrivant le monde dans son ensemble, parce qu'on crée des sociétés, on construit des mondes. Quand on écrit une histoire d'anticipation de SF, forcément on construit un monde, soit notre monde tel qu'il est dans l'avenir, soit un autre monde sur une autre planète. Mais du fait qu'on construit un monde, ça nous oblige à étudier dans sa globalité comment notre monde, le seul qu'on connaisse jusqu'à présent, comment notre monde fonctionne. Et pour moi, c'est ça, ce qui me passionne dans la SF. C'est pas tant l'élément SF que l'élément réalité, en fait. Pour moi, c'est la littérature du réel à part entière, quoi. Totalement, carrément autant que le polar. Mais le polar, bon, ça va se passer dans un milieu donné qui va être, je sais pas moi, celui de la mafia, celui de la haute finance, celui de l'espionnage ou que sais-je, qui va peut-être décrire par le menu. Et on va être immergé dans cet univers-là, dans un aspect de la société. Je connais rarement de polar qui traite de la société dans son ensemble, quoi. Enfin, peut-être je suis ignorant, hein, mais pour moi, c'est plus le rôle de la science-fiction.
Yeah, I think science fiction is the mainstream fiction, memetic fiction, is the tiny subset of science fiction. Because science fiction and fantasy, we can talk about everything, but other literatures are more restricted by what they can cover. They can't cover the entire world. They can't build an entire world. But as far as the question of sense of wonder, I think you're only out, and people have talked about this, is to follow your own obsessions and the things that most you're most curious about. And that's the only way to make sense of wonder come out to the reader, is to express your own wonderment and to ask the next question. So the things that have bothered me, like the big questions for me, is what is consciousness? What is the self? Is there such a thing as free will or not? These questions keep coming up for me over and over again as I wrestle with them, and sometimes I write about them in fantasy novels. I've got L'Education de Stony Mayhall is a zombie novel about a person who is a zombie and doesn't know how his own brain works because it violates all the physics of science, and he spends his entire life trying to figure out how he is a self. Does he have a soul, even? So sometimes when I write about fantasy, I'm dealing with that question through things like the supernatural, and sometimes I'm writing very hard science fiction novels and science fiction stories about neuroscience and how the brain works. And I think that I don't worry about instilling a sense of wonder in the reader. I just write about the things that I am interested in and really excited about and wonder about, and I hope that wonderment comes through for the reader. Oh, I'll say one more thing. Sometimes you get very lucky in that your own personal obsessions happen to resonate with lots of people. Philip K. Dick's personal obsessions about how reality works, his personal obsessions about whether he was being manipulated by outside forces or not, that happened to resonate with a bunch of other people. Now, he started writing about this in the 50s, but we read him today and we think, yes, that's how the modern world feels to us. We're not quite in control. And so, but he only got there not by trying to predict the future. He wrote it because that's the things that really bothered him and were when he was questioning his sanity, that's what he had to write about, and that's what resonates with the readers.
T'as pris beaucoup de notes en plus.
Oh, bon sang, je suis encore en train de réfléchir sur. Non, je suis sèche là-dessus. Question suivante.
Je voudrais reprendre ce que disait notre ami américain. Évidemment qu'on n'écrit que sur ses obsessions. Sinon, quel intérêt ? Moi j'ai cette obsession, ayant été bercé par les livres sacrés tout petit, d'essayer de comprendre la relation de l'être humain et de la matière, ou de la conscience et de la matière, de l'âme et de la matière, l'esprit qui a créé l'autre, la matière ou l'esprit, enfin, c'est quoi ce couple là, c'est quoi le temps, et ça c'est déjà posé aussi par les mythologies, tous les textes sacrés. Là, je disais les Upanishads il n'y a pas longtemps, c'est vraiment pas un parangon de modernité, hein, parce que ça doit être 3000 ans. Qui disait ce qui n'existait pas hier et n'existera pas demain ne peut pas non plus exister dans l'intervalle. ce qui semble être une belle définition du temps dans toutes ses dimensions et qui ressemble beaucoup à la physique quantique, c'est-à-dire que le temps n'existe jamais puisque chaque fois que nous passons le présent, c'est du passé. Le présent n'existe, le présent avance toujours en fait, et donc ça crée en permanence du passé. Le futur n'existe pas, donc le présent non plus n'existe pas. Et ça, c'est vertigineux, et c'est ce genre d'interrogation qui me pousse à écrire de la science-fiction, parce que peut-être que c'est le genre idéal pour ça, parce qu'on pousse les personnages dans certains retranchements très très loin, dans l'espace, par exemple, dans un vaisseau où vous êtes confiné au milieu d'un élément hostile, et que du coup, toutes ces interrogations fondamentales vont voir le jour et où les personnages vont essayer de trouver des réponses. Voilà. Donc c'est évidemment par rapport à la conscience et aux obsessions.
Oui, ben alors je vais rebondir, oui, sur ce que tu viens de dire. Où effectivement, les processus d'écriture sont extrêmement complexes, et notamment parce que je pense qu'il y en a les trois quarts qui sont parfaitement inconscients. Moi, il y a l'essence, en tout cas au début, tout ce que j'écrivais, y compris en science-fiction, ça venait de rêves directement. J'avais pas encore lu Freud, donc j'étais pas au courant. Maintenant, c'est probablement un peu plus intellectualisé. Et encore pas tellement. C'est extrêmement compliqué d'expliquer. Alors là où je rejoins aussi mes confrères, parce que finalement vous avez dit moi tout ce que j'aurais pu dire, c'est qu'on commence un livre et que après il vous échappe, mais il vous échappe complètement, quoi. Et moi j'avais fait un livre, mais c'est pas de la SF, bon, c'est de la fantasy, et c'est devait y avoir des sirènes. Voilà. Et j'avais mes hauts comme ça de documentation sur les sirènes, les atolls et tout. Je n'ai jamais réussi à faire entrer une seule sirène. Voilà. Premier chapitre, ils n'ont pas voulu. Le deuxième non plus. Je suis arrivée au 47e chapitre. Elles n'y étaient toujours pas. Et j'ai failli appeler ce bouquin « Pas la queue d'une sirène ». Mais mon éditeur s'y est opposé. Mais c'était très particulier. C'est la seule fois où il y a un livre vraiment comme ça qui s'est fait sans moi. Je ne suis pas sûre que la meilleure littérature, d'ailleurs, se fasse comme ça. Et il peut être aussi extrêmement salutaire d'avoir un cadre strict et de s'y tenir et de laisser plutôt les scènes intérieures se remplir du sense of wonder dont on peut disposer. Voilà.
J'avais une petite question. Jean-Marc, tu voulais rajouter quelque chose ? Non ?
Non, enfin, sauf juste la dernière phrase qu'a dit... À propos d'avoir un cadre strict à s'y tenir, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, de vraiment bâtir l'histoire avant, quoi. Même si, comme je dis, mes personnages m'écartent du plan très vite, mais bon, le plan se réajuste après en fonction. Mais au début, je faisais comme Pierre, ou comme Catherine, peut-être, d'avoir une vague idée de départ et puis de me lancer et puis on verra bien où on va arriver, quoi. Ça a donné des espèces d'imbroglio que sont Tom Blanc et Biofeedback, mes deux premiers romans, que je serais même moi-même incapable de dire de quoi ça parle exactement. En tout cas, impossible d'en faire un résumé, quoi. Depuis, j'ai appris à faire des plans et des résumés. Et pour moi, une bonne histoire doit se raconter en cinq lignes. C'est pas ce que je demande de tous les auteurs. C'est ce que je m'impose à moi. Pour moi, une bonne histoire doit être simple et se raconter en cinq lignes, ce qui n'empêche pas que je peux faire 30 pages de développement, de contexte, de plan, d'études, de notes, etc., etc. Et puis présenter un plan à mon éditeur, un plan détaillé, chapitre par chapitre, pour lui montrer à quel point je suis dedans, à quel point ça va aller vite, à quel point je vais rendre le bouquin à temps. Ça marche jamais, mais l'éditeur y croit, et moi aussi, au départ. Et après, effectivement, l'histoire vit sa vie propre. Et c'est ce qui fait ces moments de grâce qui font une bonne histoire. C'est pas les cinq lignes de départ, c'est pas le plan rigoureux, c'est pas la vague idée qui va germer à mesure, c'est les moments où on n'est pas là, quoi. Comme, exactement comme tu dis, Catherine, on n'est pas là. Et l'histoire se déroule devant l'écran comme si on voyait un film, Et puis, on émerge de cet état de transe, plus ou moins, en se disant, waouh, bon, ben, je relirai ça demain. Pour l'instant, je reste dans la grâce, quoi. Après, peut-être demain, tout va. Je vais trouver ça nul. Et puis... Mais en général, non. Ce qui est nul, c'est ce qu'on a peiné à écrire. Tous ces moments aussi d'angoisse de l'écrivain, on se dit, putain, je sais ce que je dois mettre et tout. J'ai mes personnages, je sais ce qu'ils doivent faire et tout. Mais là, ça sort pas. Ah, ça sort pas. Et tu rames et tu rames. Et t'écris 5 lignes dans la journée. Et tu te dis que c'est une journée de merde. Et puis, on a tous connu ça.
Je ne voudrais pas donner l'impression à nos futurs auteurs dans la salle qu'on est obligé de faire un plan. On n'est pas du tout obligé. Moi, j'en fais jamais.
On n'est pas obligé.
C'est une de mes angoisses, c'est quand un de mes éditeurs me demande de quoi va parler le livre. Alors, je dis, c'est l'histoire d'un mec. Il va quelque part, il rencontre quelqu'un, et je ne sais pas si ça finit bien. Voilà. Donc, c'est le cadre général. Et après, ça laisse une grande latitude. Alors, ce qui se passe pour moi, mais ça, c'est personnel. Je pense que Francis Berthelot classait les auteurs en deux catégories, hein, scripture en structurant, bon, on sait. Que si je connais l'histoire avant de la raconter, je n'ai plus l'intérêt de raconter l'histoire. Vous voyez, il faut que je la découvre au fur et à mesure que je la raconte. Sinon, si je sais exactement où vont mes personnages, ça va me faire un peu suer de raconter l'histoire, quoi. Alors, ça s'appelle le travail en immersion, c'est-à-dire que c'est confiance absolue dans le livre qui est en train de s'écrire. Et il ne faut pas travailler, comme je l'ai fait avec Alain Grousset, avec un pur structurant, sur un projet commun, parce que lui, c'est la panique globale, quoi. Parce que lui, comme son histoire se passait après la mienne, il me demandait toujours « Alors, t'en es où tes personnages ?» Parce que moi, j'ai besoin de savoir, parce que moi, il faut que je fasse mon histoire et tout. Je dis « Mais j'en sais rien. » Il me dit « Mais non, mais c'est pas possible. Tu dois... Mais non, j'en sais rien. » Il me dit « Mais je te rappelle que moi, je dois m'occuper de l'enfant des personnages. J'aimerais bien que tu conçoives un moment. » Je dis « Ok, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, ça va arriver au bon moment. » Donc, je pense que c'est une nature d'auteur et que moi, je ne pourrais pas... J'ai essayé une fois de travailler avec une structure parce que je me suis dit, au bout du troisième roman, je me suis dit c'est quand même moi le patron, j'en ai marre que les personnages fassent ce qu'ils veulent et donc je vais leur imposer une histoire et j'ai tué le livre en 50 pages. J'ai complètement desséché, quoi. Donc voilà, après c'est à chacun de trouver sa nature. Si vous faites partie des structurants, faites des structures super chiadées que vous oublierez au bout de deux chapitres. Et si vous êtes scripturant, partez dans l'aventure en confiance dans votre écriture qui structurera votre récit.
I want to say, something about, everyone has to find their own way, their own nature, their own way of writing. I had the opposite problem in that I would start writing and I would not know where the story was going, and then I would just hit a wall. And I realized that I didn't even actually have a story. I had a premise. I had an idea for a story, but I didn't actually have an entire story. And so I had to learn to wait to figure out an ending for the story, not the ending, because usually especially with a novel, around halfway through the novel, I would realize, oh no, this is what the real ending is, and I would then start writing toward it. But way too early, I have lots of unfinished stories where I would start them too early and not really have a story in mind. I just had a premise. I have friends of mine, though, who write entire novels only seeing what E.L. Doctorow said, driving in a car at night. He could only see about 12 feet ahead of him, but it was enough to get all the way home that way. I'm not like that. I need some sort of beginning and end. I don't need to know the middle, but I need to know an end. Otherwise, I just get lost. But every writer is different, and you'll have to figure that out for yourself. So, good luck. Bonne chance.
Merci. Mais non, c'est vrai, chaque écrivain est différent. Et moi, il y a une chose que je remarque, plus j'avance dans le métier, on a tendance à vouloir formater. Alors, par exemple, vous écrivez un livre qui est un pur jaillissement à votre imagination. Et après, on va vouloir le transformer de plus en plus de projets multimédia. Alors, ça va être soit en manga, soit en BD, soit en film, soit en série, soit en dessin animé, etc., en anime. À ce moment-là, vous allez passer de la pure jouissance de la création à ce qu'on appelle des pitchs et des synopsis et des arches et des machins comme ça, qui sont à peu près comme autant d'huile de foie de morue. Faut en passer par là. Ça peut même être structurant. On peut apprendre des trucs, mais bon sens, c'est une purge. Et surtout, il y a un grand risque, c'est de formater. C'est un peu comme les ateliers d'écriture, où on vous apprend à ne pas faire du dithylisme, où on vous apprend à chapitrer, on vous apprend... C'est drôlement bien, je pense, d'apprendre quelques techniques, mais si vous en faites trop, alors là, il y a le grand risque d'assécher le flow, la libre création, ce qui fait que des ateliers d'écriture, l'atelier d'écriture permet d'éviter le trop mauvais, ça c'est clair. Par contre, ça risque fort d'écréter le très bon. Et je remarque la même chose avec la lecture, moi, du fait et de mon âge et de mon métier, j'ai appris à diagonaliser. Et ça date aussi d'Internet, des réseaux. Et je suis en train de réapprendre à lire. C'est-à-dire que pendant quelques années, je n'ai plus pris aucun plaisir à la lecture. Je prenais un livre, n'importe lequel, en 10 minutes, je pouvais vous faire un résumé en 150 mots, il n'y a pas de problème. Donc tout le plaisir de la lecture a disparu instantanément, et là, je réapprends à lire lentement. Et ça vient aussi de cette habitude qu'on a sur Internet, on diagonalise, on acquiert du fragmentaire, mais on creuse de plus en plus rarement. Et il y a quelqu'un, je crois que c'est Jay McInerney, qui a dit « I miss my pre-internet brain », je regrette mon cerveau d'avant Internet. Il était peut-être moins plein, mais il était mieux agissant.
Fugger, est-ce que le public a des questions par hasard ?
Ça tombe bien, on ne répondra pas. Bonsoir. J'avais juste une question à propos, tout à l'heure vous disiez que le genre de la science-fiction, c'était un genre qui était assez difficile, une étiquette assez difficile à accepter, et j'ai l'impression que c'est parce que ça brasse beaucoup de genres, et j'ai l'impression que notamment, là je pense à un livre de Pierre Bordage, l'un des derniers que vous avez sorti, Les Dames Blanches, j'ai l'impression que c'est en ce moment dans la science-fiction, et je pense aussi à deux séries qui sont Wayward Pines et The Leftovers, qui est lui-même adapté d'un roman américain, j'ai l'impression que la science-fiction est en train de se réapproprier un côté social pour donner donc l'événement surnaturel est une sorte de prétexte pour un regard vis-à-vis de la société. Est-ce que, à votre avis, c'est une sorte d'évolution de la science-fiction comme le space opera en a été une à l'époque de Star Wars, etc., etc.
Oui, tout à fait. Non, mais en fait, oui, c'est exactement ça. C'est transformer la moitié de l'humanité en zombies. Ou supposer que, je ne sais pas, une personne sur 10 ou sur 20 dans The Leftovers a disparu. Et voir comment les gens réagissent permet de faire apparaître toutes sortes d'aspects. C'est un peu comme le jour où on découvre la psychologie, ou le jour où on découvre le féminisme, ou le jour où on découvre, bref, une nouvelle grille de lecture, là, les neurosciences aussi. C'est pas que le monde change autour de vous, c'est que tout d'un coup, vous avez un nouveau pied de biche pour facturer les apparences et voir les choses autrement. Effectivement, la science-fiction peut avoir aussi cette fonction-là.
Mais j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été vraiment éloignée des préoccupations sociales. 1984 en est un bel exemple, Une meilleure des mondes. C'est aussi des formes de société, c'est aussi des cris d'alarme sur une évolution possible de la société. Donc moi, dans Les Dames Blanches, ce que j'ai voulu montrer, c'était à quel point le conditionnement de la peur peut amener l'humanité à commettre des aberrations. C'est-à-dire qu'on s'horrifie à juste titre des gens qui se font exploser sur les marchés un peu partout dans le monde. Or, je me suis interrogé sur est-ce qu'on serait capable de le faire dans certaines circonstances ? Est-ce que la peur de l'inconnu, finalement, ne nous pousserait pas aux pires extrémités ? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui pousse les gens, finalement, à ces extrémités-là ? En creux, c'est une réflexion sur ce qui se passe actuellement dans notre monde et ces extrémismes-là qui se développent, qu'est-ce qui pousse les gens aux extrémismes ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est autre chose ? Ça, c'est l'interrogation que posent les Dames Blanches, je pense.
Moi, je crois qu'en fait, je pense qu'une bonne partie de la science-fiction, hormis peut-être la hard science qui va poser un problème de physique ou de mathématiques ardues et tenter d'y répondre, mais je pense que la science-fiction, dans le sens où c'est une littérature qui, comme je disais, bâtit des mondes et construit des sociétés, à la base, c'est une littérature sociale. Et quel que soit très souvent, quel que soit le sujet ou le thème abordé dans tel ou tel roman de science-fiction, on va se rendre compte que, en fait, c'est la réaction d'une société ou d'individus au sein d'une société par rapport à ce problème posé. Qui va être le thème central du bouquin, en fait. Et là, je vois, moi, bon, toi, par rapport aux Dames Blanches, effectivement, que j'ai lu, ça tombe bien, où effectivement, tu décris, voilà, la réaction face à comportement a priori aberrant, enfin, du moins inacceptable, qu'on en vient finalement accepter, qui est de sacrifier ses enfants pour, soi-disant, sauver la race humaine. On se rend bien compte que ça ne marche pas vraiment. Et moi, j'ai fait 3 romans sur le climat, le réchauffement climatique, mais à chaque fois aussi en m'intéressant à l'aspect social. Comment la société va encaisser ce nouveau paradigme, puisque là, on peut réellement parler d'un nouveau paradigme et peut-être d'une première en science-fiction qui fait que nous autres auteurs de SF, on se trouve pour la première fois confrontés à un avenir qui va être certain, qui est celui du réchauffement climatique. Donc on sait forcément que le monde va changer radicalement dans un proche avenir. Après, bon, bah, tout est possible, effectivement. Et, dans ce cas-là, c'est l'aspect social qui compte. Moi, je pense qu'en général, dans tout mon roman de SF, c'est l'aspect social. Et Daryl parlait tout à l'heure de Philip K. Dick, qui, sous couvert de son obsession, qu'est-ce qu'est le réel, suis-je confronté au réel, comment suis-je manipulé, etc., n'a finalement écrit que des romans sociaux. Enfin, moi, j'ai l'impression que Philip K. Dick était totalement immergé dans la société de son époque, et tous ses romans décrivent des gens ordinaires, a priori, confrontés à une réalité qui se déglingue en général, mais d'un point de vue sociétal, en tout cas.
On a juste le temps pour une dernière question, s'il faut.
C'est une question pour Jean-Marc Ligny. Du coup, quelle est la tradition par rapport à toute la SF écologiste avec ce triptyque sur le climat? Quelle est, vu la réalité là, hein, qui est imminente, et par rapport à tout ce qui a été inventé, imaginé dans la SF écologiste, est-ce que vous avez des éléments qui sont apparus nouveaux ou qui se sont confirmés?
La SF écologiste est apparue avec l'écologie, donc dans les années 70. Elle a malheureusement pas été inventée avant. Ça aurait été une bonne chose. Et actuellement, pardon, est en train de s'établir depuis une dizaine d'années je pense 10-15 ans aux USA, tout un courant qui s'appelle Climate Fiction. Donc, qui est des romans de science-fiction basés sur le changement climatique. Ça devient un genre à part entière aux USA. En France, pas encore, mais ça pourrait le devenir, ou en Europe. En tout cas, les Américains qui aiment bien mettre des étiquettes sur tous les genres littéraires, comme nous aussi d'ailleurs. Donc, on a maintenant le genre climate fiction. Donc, on va imaginer toutes sortes de catastrophes et toutes sortes de manières réjouissantes dont la société va s'écrouler dans le courant du siècle. Tout ça, ça reste de la fiction. La seule réalité, c'est qu'on est certain que la société, même si elle ne va pas s'écrouler, va être radicalement transformée dans le courant du siècle. Ça, c'est un nouveau paradigme, SF. Et ça, je pense, pour moi, ça a transformé toute ma vision de la science-fiction, en fait. Je peux maintenant, même si je me mets maintenant à écrire du space opéra, j'en ai la ferme intention d'ailleurs, ouais. Forcément, je vais être obligé, dans mon histoire du futur, d'inclure ces siècles sombres, 21e, 22e, 23e siècle, et peut-être la suite, où la société se sera écroulée à cause du changement climatique ou se sera radicalement transformée à cause du changement climatique, parce que ça, c'est incontournable. avant, on a eu d'autres menaces qui ont pesé sur l'humanité. Menaces de pollution globale, menaces de guerre nucléaire, menaces de virus ou de bactéries qui se répandent sur la Terre. Bon, les histoires de zombies, etc. Excusez-moi, hein, mais j'ai la crainte. Mais tout ça restait du domaine du potentiel. La guerre nucléaire, on espérait tous que personne ne serait assez fou pour appuyer sur le bouton. Heureusement, personne n'a été assez fou pour le faire. Du moins, pas encore. Bon, des virus, des bactéries, il y a eu des malfaisants qui en ont répandu dans le métro, dans des villes, etc. Ça n'a jamais pris l'échelle de la planète entière comme l'armée des 12 singes, par exemple. À chaque fois, la science-fiction traitait de menaces, en fait, potentielles. Depuis qu'on a assuré qu'il y a un changement climatique, la science-fiction traite avec une nouvelle réalité qui reste à définir, évidemment. On ne sait pas comment va être le monde et comment la société va survivre à un réchauffement de 4 degrés, par exemple, ce qui paraît de plus en plus probable à l'échelle de 50-60 ans. Mais on sait en tout cas que le monde ne va pas rester tel qu'il est. Après, donc voilà, ça implique de baser notre imaginaire sur une nouvelle réalité qui, de toute façon, va exister. Ça, c'est un vrai nouveau paradigme pour un auteur de SF. Et donc, pour moi, j'essaye de coller le plus possible à la réalité. Après, on peut aussi partir dans des joyeux délires sur le climat, et notamment la géo-ingénierie, où là, l'imagination des humains est sans limite.
On va s'arrêter là pour enchaîner sur une autre conférence. On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux et d'être autant restés. On vous souhaite une bonne fin de journée.